Messieurs, dames, s'il vous plaît. La rencontre devait commencer à 18h30. Il est moins 20, donc je pense qu'on va pouvoir commencer. Je ne vous présente pas Gérard Simat. Pour beaucoup d'entre vous, c'est un confrère. C'est aussi un auteur dont on connaît tous la plupart des ouvrages. Moi, je le connais bien, Gérard, parce que c'est aussi quelqu'un dont le travail de mémoire sur Poitiers nous intéresse beaucoup et on le sollicite dans les pages de nos quotidiens. Gérard, parmi ses nombreux livres, a signé une somme sur l'hôpital Pasteur qui lui a valu un prix national. On est là pour parler ce soir d'un autre livre. Ce livre, c'est un livre qu'il a consacré à l'Hôtel Dieu, un lieu que vous avez tous, j'imagine, ici connu et dont on va pouvoir parler ce soir. Ce livre a été édité par le CHU de Poitiers et donc j'invite Madame Masson à nous expliquer quelle est la démarche de l'établissement.
Merci. Je suis Madame Masson, directrice générale adjointe du CHU de Poitiers. Et à ce titre, je vous prie de bien vouloir excuser la présence de Monsieur De Witt, qui aurait beaucoup aimé être ici parmi vous ce soir, qui est féru d'histoire et passionné par l'hôpital et l'hôpital de Poitiers, qui donc à ce double titre aurait aimé pouvoir s'entretenir, converser, échanger avec vous. Mais ça n'a pas pu être le cas, malheureusement, mais j'essaierai de lui restituer le plus fidèlement possible les échanges qui auront lieu en ce début de soirée et qui, j'en suis certaine, de par déjà l'ampleur du public, seront nourris, puisque c'est donc le but de cette soirée, que ce soit une soirée d'échange et non pas une soirée académique ou livresque. À l'image de ce livre, qui est un livre qui existe par les témoignages fournis, nombreux, précis que vous avez apportés. Donc je vous en remercie, puisque sans vous, ce livre n'existerait pas, en tout cas pas dans la forme qu'il nous est permis d'avoir entre les mains aujourd'hui. Et puis je remercie surtout Monsieur Simat, puisqu'il est... Il est à l'origine de ce beau projet, de cette grande idée. C'est lui qui a entrepris de convaincre le CHU de Poitiers de participer à la réalisation et à l'édition de ce livre. Et bien évidemment, ensuite, qu'il a construit avec de fidèles acolytes pour parvenir aux beaux résultats que nous avons aujourd'hui. L'équipe évidemment de communication du CHU de Poitiers y a contribué, mais je le redis, ce livre est le fruit de vos témoignages nombreux, et le but de cette soirée, c'est de continuer à échanger pour approfondir des histoires ou des vues ou des façons de se représenter sa propre histoire. Donc merci à vous de vous être rendu en ce lieu ce soir. Merci à l'espace Mendès France de nous accueillir. Donc merci à Didier Moreau de nous prêter ce lieu. Et puis je cède maintenant la parole à Monsieur Simat qui va vous présenter un peu plus en avant son projet et la façon dont il l'a mené. Merci. Bravo.
Merci. Donc, je vais faire un bref résumé de l'ouvrage parce que l'important ce soir, c'est les échanges sur les témoignages. Le CHU de Poitiers, comme tous les autres, a une histoire, et ici une belle histoire, commencée avec l'aumônerie Notre-Dame, la Grande, avant 1202. L'histoire de l'hôtel Pinet Médecine pour les civils et les militaires commence réellement le 27 septembre 1796, date à laquelle il reçoit ses premiers malades civils venus de la place Notre-Dame et du premier hôtel Dieu. Peu de temps après, c'est la renaissance de la faculté de médecine de Poitiers en 1806, sous forme d'une école secondaire. Jouxtant les bâtiments de l'hôtel Dieu, cette école va permettre des relations étroites entre l'enseignement au lit du malade et les cours théoriques. L'étudiant en médecine, jusqu'à la fin des années 1950, va se trouver en contact direct avec les patients dès le premier jour de son entrée dans le monde médical. Le premier jour. C'est un long chemin qui va mener l'hospice militaire et l'hospice civil côte à côte jusqu'en 1980. L'importance du premier va décroître progressivement, surtout après la Seconde Guerre mondiale. Les premiers chapitres du livre abordent cette dualité et ces combats, avec les militaires, le terme est peut-être mal choisi, mais aussi la belle histoire de la maternité et de l'école des sages-femmes qui commence en 1807 et dont la date importante est celle de 1844, date de l'achat de l'hôtel particulier Fourreau de Beauregard au 21 rue de l'Hôtel Dieu. Les jardins de celui-ci rejoignent le verger de l'Hôtel Dieu. Ainsi, longtemps sont côte à côte l'Hôtel Dieu, l'école de médecine et la maternité. Cette dernière ne déménagera qu'en 1966 dans le pavillon d'Alem. Un autre chapitre est consacré à la naissance de la radiologie et au rôle du professeur Pierre Rambaud, pharmacien en chef des hospices de Poitiers. Mais ce qui nous intéresse plus particulièrement ce jour apparaît dans l'ouvrage avec le chapitre 6. Ce n'est pas que les cinq premiers ne soient pas inintéressants, mais aujourd'hui, on commence au chapitre 6. C'est l'histoire du passage d'un hôpital local, que j'ai appelé rural, peut-être un peu méchamment, disons local, au CHU d'aujourd'hui. Grâce aux 122 témoignages écrits aux oraux, cette évolution, accélérée à partir de la fin des années 60, montre bien ce que devient l'hôpital français. C'est la loi du 21 décembre 1941, réforme qui permet l'accès aux soins hospitaliers pour tous les citoyens et non plus seulement pour uniquement les indigents comme auparavant. C'est l'hôpital de Poitiers qui devient en 1943 un CHR, ou Centre Hospitalier Régional. C'est ensuite l'ordonnance de la loi Debré du 31 décembre 1958 qui institue les CHU et les temps pleins hospitalo-universitaires. C'est la création de la nouvelle faculté de médecine en 1968 qui reste en place au bord de la pénétrante jusqu'à son transfert sur le site de la Milletrie en 2006. Ce sont surtout les hommes, avec les premiers temps pleins en 1963, dont mon maître Jean-Paul Lefebvre en neurologie, l'arrivée des six agrégés de 1966, dont Yves Sudre, et en quelques années, la création de nombreux services particulièrement vivace au tout début des années 70, et nous avons ici des représentants qui ont créé ces services. C'est très important. De nombreux témoins peuvent en parler. Il y a les médecins, mais aussi tout le personnel soignant et tout le personnel administratif. Et sur cet aspect, on n'oubliera pas le rôle essentiel de Georges Alix, successeur de Marcel Lavenu, comme directeur général, et de Raymond Gattard, directeur général adjoint, Pierre d'Angle de l'hôpital pendant plus de 35 ans. De nombreux témoins sont présents aujourd'hui pour nous préciser tout cela. Nous avons le plaisir d'avoir parmi nous le plus ancien témoin médical, le docteur Jacques Farisi, présent en médecine locale depuis 1946 et qui a passé le premier concours d'internat des hôpitaux de Poitiers, proposé après la Seconde Guerre mondiale, à la date du vendredi 11 mars 1949. C'est à tout cela que nous voulons donner la parole ce jour pour affiner la belle histoire du CHU de Poitiers. Je remercie encore une fois la direction du CHU d'avoir accepté de prendre en charge cet ouvrage et de poursuivre, après l'apparition en 2011 de l'hôpital Pasteur, 300 ans au service des malades, son devoir de mémoire sur ses origines. Je terminerai en remerciant tout particulièrement mon ami Alain Defaille, directeur pour la Vienne des journaux NRSCP, Nouvelle République et Centre Presse, de nous donner gracieusement son temps pour la préparation et l'animation de cette conférence. La parole est aux témoins.
Merci Gérard. Bien, vous voyez Gérard est très fort. Je lui avais dit 3 minutes, du 13e au 21e siècle. On a tenu dans les 3 minutes. Bon, vous avez compris que le sujet de nos échanges ce soir, c'est effectivement cette période essentielle dans l'histoire de l'Hôtel Dieu, dans l'histoire de la médecine, dans l'histoire de la chirurgie à Poitiers, qui démarre à la fin de la guerre et qui s'achève dans les années 80. Comment l'Hôtel Dieu est passé d'un hôpital rural, selon la définition de Gérard, au statut de CHU. On a la chance d'avoir dans cette salle, Gérard vous le disait, M. Farisi, qui est un témoin de la vie de l'Hôtel Dieu dans la fin des années 40. Je propose qu'on lui passe la parole dans un premier temps, parce que c'est là que tout redémarre après la guerre. M. Farisi, racontez-nous. Vous étiez 3 internes en 49, hein, c'est ça?
Alors, nous avons passé le concours, comme vous dites. Avant, on était des internes provisoires, ou appelés ou faisant fonction. Et puis un beau jour, il nous est arrivé cette surprise agréable qu'il fallait passer le concours. Eh ben, on a passé le concours. Alors moi, je vous dirais, j'ai deux cas. Je peux vous dire que j'ai été reçu second, mais je peux vous dire aussi que j'ai été reçu avant-dernier, puisqu'on n'était que trois.
Oui.
Mais il fallait quand même passer ce concours pour pouvoir avoir droit à prendre ensuite les postes. Alors, il y avait les postes intéressants, c'était la médecine homme et femme et la chirurgie homme et femme. Voilà. Alors, moi, je suis avant, on est entré en sacrifiant nos vacances pour remplacer un interne. Alors, si on avait l'aval du patron, on faisait un stage. Puis alors, quand arrivait pour fixer les stages, eh bien, c'était en fonction de l'ancienneté. Celui qui avait fait, je sais pas, moi, 10 jours de remplacement d'interne, ben, il venait avant celui qui en avait fait 9,5, et puis voilà, bon. Là. Alors, ça a changé. Alors, ça m'a permis, voyez-vous, je suis entré donc à l'Hôtel Dieu en novembre 48. Hein, et j'en suis sorti en 51. Ah non, qu'est-ce que je dis 48? Je suis entré en novembre 45. Je suis resté 6 ans. J'ai vécu 6 ans à l'Hôtel Dieu. Alors, j'ai connu là-bas, c'est ce qui est intéressant. Ce soir, je pense, c'est les personnes qui aujourd'hui, ben, sont quand même tous décédées, qui ont laissé des noms comme Le Blé, Beauchamp et compagnie, mais que moi j'ai eu connu comme en exercice, comme chef de service, comme patron, comme enseignant. Alors voilà. Là, une figure qui m'a bien marqué, et je pense qu'elle connaît tout le monde, c'est Le Blé. Le docteur Le Blé, alors lui, c'était la vieille médecine, mais il fallait commencer par là. Il fallait examiner son malade, il fallait faire bien attention à ce qu'on faisait. Je vous rappelle une petite anecdote qui vous le décrira. J'étais de garde un après-midi et arrive une pneumonie. Bon, alors c'est simple, j'ai une pneumonie, radiographie, bon, et tout bien. Eh bien, c'est parfait, et le lendemain matin, j'étais interne quand même dans son service, j'ai dit, monsieur, il y a une pneumonie qui est arrivée cette nuit, hier soir. Ah bon, et quoi? Comment prouver cette pneumonie? Ben, j'ai dit, parce que la radio, etc. Qu'est-ce que c'est que la radio?
Effectivement.
Ah, puis j'ai dit, il y a l'auscultation avec le stéthoscope, etc. Qu'est-ce que c'est qu'un stéthoscope, ce truc que vous avez au... Non. Qu'avez-vous entendu à l'oreille? C'était l'oreille sur le thorax du malade. Bon, il arrivait quelquefois, il se perfectionnait, il utilisait le vieux en bois là, de l'ANEC. Bon, c'est ça. Alors, quand je lui ai dit, ben, c'était pour confirmer, je lui ai parlé, la barre de sirop, etc. Ah, il m'a dit, là, je comprends.
Alors,
c'était ça. Un autre jour, bon, on est tombé avec ce système, il examine une dame qui était d'une origine étrangère, qui parlait pas un mot de français, qui comprenait rien. Il avait beau la questionner et tout, ça marchait pas, ça. Alors il se retourne vers nous et dit, messieurs, maintenant on va faire de la médecine vétérinaire.
Oh là là.
Bon, arrêtez-moi, parce qu'autrement je vous en racontais, Antoine, beaucoup. Il y avait Le Blé. Bon,
ça ressemblait à quoi, l'Hôtel Dieu, juste après-guerre? Je crois que Madame Sibillot pourrait nous en parler également.
Alors, j'espère qu'il y en a.
Oui, mais il y a une dame qui va pouvoir nous raconter aussi.
Ce que j'allais dire à l'oreille.
Alors vous, madame, mais justement, tout le monde va en profiter.
Ce que j'allais dire à l'oreille, c'est que le docteur Farisi était interne en médecine, je crois que c'est en 1946, quand j'ai été hospitalisée pour une pleurésie. Et j'étais déjà employée de l'hôpital depuis 1944. Voilà. Il était avec le docteur Sarvona. Vous vous rappelez, monsieur Farisi?
Il n'a pas entendu.
Ouais.
Et ben ça, vous pourrez en parler peut-être.
C'est pas grave.
En parler tout à l'heure. Ça ressemblait à quoi, l'Hôtel Dieu, à l'époque, après la guerre? L'Hôtel Dieu, après la guerre, c'était comment?
Après la guerre, c'était pas brillant.
Mais encore.
C'était pas brillant. C'était. Alors, moi, j'étais dans les bureaux, mais alors, les bureaux, par exemple, étaient... j'ai commencé à l'économat dans les... pas les sous-sols, mais la partie terrasse, sur la terrasse, hein, à côté entre la cuisine et les bains. Voilà. Alors, c'était tout petit, bien sûr, les chaufferies dessous, et de chaque côté, les salles qui étaient les salles des tuberculeux. On appelait ça. Ah oui, c'était pas la physio, c'était les tuberculeux. Voilà.
Et les internes à l'époque, on parle toujours de la vie des internes.
Les internes, ils avaient leur restaurant dans la petite pièce, la petite salle qui est dans la cour d'honneur. Il y avait la conciergerie à droite, la conciergerie, et entre le petit escalier en colimaçon qui grimpe et la conciergerie, c'était le restaurant des internes. Ils n'étaient pas nombreux, bon, ben, ça allait, mais enfin, c'était quand même tout petit.
On m'a parlé de fresques à l'époque. On m'a parlé de fresques à l'époque. Fresques qui auraient disparu depuis.
Je ne sais pas. Non.
C'était pas là. Madame
Apercé. Je ne connais pas.
C'était pas là.
En dessous les locaux. Ah oui, mais quand l'internat a été en dessous là, à la place.
Donc c'était plus tard ça.
Quand l'internat était.
Ah oui, d'accord.
Restaurants de l'internat ont été installés dans les anciens bains. Voilà. Oui. Les bains.
C'est vrai.
Alors il y avait les bains des hommes, les bains des femmes, et les bains sulfureux aussitôt l'après-guerre.
Les bains sulfureux.
Et oui, qui traitaient la gale. Eh bien oui. Alors on était pendant deux jours dans la semaine où on respirait le soufre.
Bon, cette décennie des années 50, on sent bien que les choses n'ont pas été simples après la guerre. Et la charnière, Gérard, c'est vraiment la fin des années 50. Et les années 60.
Juste pour rebondir deux secondes sur Jacques Farizi, il m'a confié ce document que je vais lui redonner. C'est le concours de l'internat de 1949. Vous voyez, il le garde précieusement parce que malgré ce qu'il dit, c'est quand même un honneur d'être interne des hôpitaux de Poitiers. Oui, pardon. Alors, pour répondre à ta question.
La fin des années 50, le début des années 60, c'est là que les choses commencent à évoluer beaucoup à l'hôtel Dieu de Poitiers.
Oui, enfin, bon, on a déjà parlé de bains sulfureux. C'est vrai que là, on est presque au Moyen-Âge, hein, parce que... voilà. Non. Alors, il y a des choses qui changent. Alors, ce qui va changer, je pense que là, il y a beaucoup de témoins qui pourront l'apporter, j'espère, c'est quand même la loi de Debré de 1958. Hein, c'est-à-dire qu'à partir de là, on dit on va créer des CHU et on va créer surtout des temps pleins hospitalo-universitaires. Et ça, c'est un élément essentiel parce que ce qu'il faut bien que vous compreniez, et là, pas de témoin, je pense, des anciens médecins et chirurgiens qui étaient ce qu'on appelait à temps partiel. Et le temps partiel, ce n'était pas 50% dans les cliniques et 50% à l'hôpital. Hein. Parfois, c'était une heure par jour, pour certains. Et ensuite, on cavalait, c'est le cas de le dire, mais enfin, il n'y avait plus de chevaux, mais enfin, on prenait sa voiture et on allait vite dans la clinique, soit de la Providence, soit des hospitalières, soit de Pontachard à l'époque, parce que ça existait encore. Donc, si vous voulez, l'enseignement au lit du malade, il était parfois très bref. Alors, on a eu des très, très bons enseignants. Quand vous lirez le livre, vous verrez, par exemple, le docteur Guillaume Vallée, qui a été considéré comme un très grand enseignant au lit du malade. Hein. Alors, ça avait un service particulier, puisqu'il faisait dermatologie et urologie. Donc, c'est des choses un peu bizarres. Mais enfin, par la suite, on a eu Jacques Aubert d'un côté et Marc Larec de l'autre. Donc, c'est ça les débuts. Ensuite, dans les années 70, le début de tous ces services. Et alors, je ne sais pas si on le fait dans l'ordre.
Non, mais on peut peut-être rester un peu sur ce qui s'est passé dans les années 60.
Voilà. Est-ce que Cathy Breuil...
J'imagine qu'il y a... Il y a quel...
Ah. Non, mais je parle suffisamment fort. Non.
On parlait de bains sulfureux. Et il y avait une caractéristique, c'est qu'il y avait des baignoires. Il y avait de belles baignoires et qu'il y avait des robinets en col de cygne qui, par la suite, ont disparu, je ne sais pas dans quelles circonstances, mais manifestement, elles ont fait des envieux. Et à propos de bains, Mon père me racontait la chose suivante, les balades n'étaient pas souvent très propres et il fallait les emmener à la baignoire. Et l'histoire raconte que c'était l'élève infirmière qui amène une dame et elle s'aperçoit au dernier moment qu'elle a oublié les serviettes. Donc elle met cette dame à côté de la baignoire qui était pleine, elle va chercher une serviette et quand elle revient, elle voit la dame qui a les yeux écarquillés de terreur et il lui dit « Et tout qui voulait que je vous boive tout ça ?»
Je me permets d'ajouter quelque chose à ce qu'il vient de dire. Nous allions une fois par semaine à la consultation de dermato-vénéraux avec le docteur Guillaume Vallée dans l'ancien hôpital, je sais plus comment ça s'appelait, enfin dans le bas de ville, qui a été détruit. Alors on allait là-bas, on y était obligé. Ça faisait partie de nos cours de cinquième année et ensuite il était d'addition qu'il y avait un des internes aille à sa consultation. Alors vénérologie, il y avait les clients habituels et un jour se présente un malade et il lui dit, bah mon vieux, t'as de la chance, on a tes derniers examens, tout va bien, t'es guéri. Bon, alors comme tu voulais te marier, tu peux te marier. Ah, ben il dit c'est une affaire. Bien. Bon, ben écoutez, le mois prochain, je vous amènerai ma fiancée, mais on n'a pas besoin de la voir. Si, mais elle est enceinte.
Alors, on parle de l'hygiène des patients, mais les méthodes d'asepsie à l'époque, ça devait être un tout petit peu différent quand même. Qui pourrait nous raconter exactement comment ça se passait? C'est si grave que ça?
Jacques.
Les méthodes d'asepsie, c'est rentré dans les hôpitaux en 1900.
Oui.
Ça n'a pas beaucoup bougé au point de vue, matériel. C'était le Poupinel. Et le Poupinel en cuivre, il y en avait dans toutes les... Madame Sudre pourra me confirmer, il y en avait dans toutes les locaux d'infirmières. Il y en avait par service. Où on stérilisait. Alors effectivement, c'était encore les seringues en verre et les aiguilles, réutilisables. Hein. Des belles aiguilles bien assez émoussées, mais surtout bien grosses.
C'est le fameux Poupinel, ça.
Ouais. Alors le Poupinel, on en a toujours. Hein. Enfin, on en a toujours. Ils ne sont plus en service. Hein. Mais on les a toujours. Pour les baignoires, je pense qu'il s'agit des baignoires en cuivre. Elles n'ont pas disparu. Hein. Il y en a une à l'école d'infirmière et je pense que Ancelin, à la sage-femme, et puis Ancelin doit en avoir encore une dans son bric-à-brac. On les a gardées. Hein. Alors je ne sais pas si on a gardé la robinetterie, hein, mais on a toujours les bacs. Alors l'hygiène, c'était très important hein, parce que ça a été une des fonctions des hôpitaux à partir de 1850. On a fait des bains dans les hôpitaux à cause de l'hygiène de la population. Donc c'est resté longtemps et ça a été, les bains sont toujours un traitement de dermatologie, hein. Pas forcément dans les hôpitaux, mais vous n'avez qu'à aller à la Roche-Posay. Hein. Ça marche comme ça. Hein. Je pense que Martine Apercet pourra me contredire ou m'affirmer. Les fresques de la salle d'internat, la deuxième, hein, celle qui était sur la cour, qui n'est pas d'honneur, mais la cour qui donne sur le jardin, c'était Scarwell qui les avait dessinées.
Oui, effectivement, c'est ce que l'on disait tout à l'heure. Par rapport à cette époque, Madame Sudre, donc vous, les années 60, vous étiez surveillante, vous arrivez quand, vous, à l'Hôtel Dieu?
Moi, je suis arrivée à Poitiers en 68. En 68, je venais de Bordeaux. J'avais suivi une année de formation cadre et je suis arrivée en 68 dans le service de médecine. Et j'ai commencé à travailler avec la surveillante qui était dans le service et qui était Sœur Jean. Puisqu'il y avait dans tous les services, il n'y avait pas de civil qui était responsable du fonctionnement du service, mais des religieuses.
Et alors, comment ça se passait? Donc, les religieuses, en 68, étaient toujours responsables?
Elles étaient toujours responsables. Elles appartenaient à une communauté, je ne sais plus laquelle.
Les Sœurs de la Sagesse.
Les Sœurs de la Sagesse, voilà. Et il y avait des... Bon, c'était très pratique pour pour le fonctionnement, parce qu'elles étaient là. Elles étaient là, oui. Elles étaient là depuis 6 heures du matin jusque vers 21 heures, heure à laquelle elles quittaient le service, et elles étaient là en permanence. Il n'y avait pas tous les jours de la semaine. Et donc, elles étaient, il y en avait partout dans tous les services. Et c'est vrai que parmi tous ceux qui sont là, il y a une religieuse qui était en ORL, je ne sais plus son nom, Adèle, qui était responsable du service et de la beauté de ses parquets. Donc, toute personne qui entrait dans le service d'ORL devait prendre les patins sous les chaussures.
Ah oui.
Voilà. Bon, ça, c'est une anecdote et qui a cessé. Et
visiblement,
lorsque...
Adèle a marqué beaucoup de monde.
Mais tout le monde la connaissait. Hein, voilà. Alors, c'est vrai que dire ce que disait M. Ariès, les problèmes d'asepsie dans le service, c'était, on appelait ça les heures de stérilisation. Parce que ça durait des heures. Et le personnel, ça durait à peu près 2 heures. Il faut que vous sachiez qu'il n'y avait aucun matériel à usage unique. Que tout était réutilisable. Et que ça passait de l'aiguille intramusculaire, sous-cutanée, intradermique, aux sondes pipi, aux sondes gastriques, aux sondes trachéo. À peu près tout le matériel était réutilisé, les canules, enfin tout matériel était réutilisé, mais bien entendu, on le lavait, on le séchait, on affûtait de nouveau toutes les aiguilles. On avait un appareil sur lequel on affûtait les aiguilles, et pour pas qu'on fasse stériliser des aiguilles avec des affaires à l'intérieur, on les mandrainait. On mandrainait. Alors tout ça, il y en avait pour des heures.
Et ça, c'était le travail de qui ?
C'était le travail des infirmières et des aides-soignantes, que souvent, qui nous aidaient, mais c'était le travail et la responsabilité des infirmières. Et voilà, alors ça. Mais je dois ajouter quand même que grâce à ce système, où on n'avait peut-être pas, c'était peut-être pas très performant, mais dans tous les cas de figure, les affections nosocomiales, nous ne connaissions pas. Il n'y en avait aucune. On nettoyait la peau vaguement avec de l'alcool ou de l'éther. On faisait notre injection. Nous n'avions pas d'abcès. Les sondes pipi, elles pouvaient rester 15 jours, 3 semaines. Nous n'avions pas d'infection urinaire. Voilà, ça c'est une anecdote.
Tout le monde confirme ? Oui ?
Voilà.
Effectivement.
C'est vrai. Mais c'est vrai que ce que je voudrais souligner quand même, c'est la rapidité avec laquelle l'évolution de cet hôpital qui avait beaucoup à faire a été réalisée en l'espace de, je dirais, pratiquement 10 ans, maximum 15 ans. On est passé du Moyen-Âge au milieu du XXe siècle. Et ça, on a pu le faire grâce, je veux dire aussi, bien sûr, à toute l'arrivée médicale qui est arrivée, qui ont donné un impact, un désir de travailler de façon très correcte et très moderne. Et puis, nous avions une écoute de l'administration qui était extraordinaire. Vraiment, une collaboration que j'ai toujours beaucoup appréciée. Je ne sais pas si... Monsieur Moinard, qui l'a. Bon, moi j'ai commencé à travailler avec. Je ne sais plus, j'ai perdu le nom. Mais si vous voulez, on avait des projets, on expliquait ce qu'on voulait faire, on était entendus, on était soutenus et on était accompagnés. Voilà.
On reviendra tout à l'heure. Monsieur Moinard, peut-être, si vous voulez réagir à cela tout de suite.
Alors, juste, c'est Marcel Lavenu qui était le DG quand vous êtes arrivé. Georges Alix en 70. Voilà. Et Raymond Gattard, le directeur adjoint depuis 1953 jusqu'en 1978, hein, qui était la pierre d'angle.
On parlera de ces personnes clés tout à l'heure, parce que je pense que vous avez beaucoup de choses à raconter. Monsieur Moinard.
Moi, je bois les paroles de Madame Sudre quand elle dit, quand elle loue la qualité des relations entre la communauté des soignants, des médecins, l'administration. C'est vrai qu'il y avait de très bons rapports. Donc moi, je voudrais aussi rappeler le contexte général d'évolution de l'hôpital, parce que il faut bien l'avoir en tête. Hein. Très schématiquement, très rapidement. L'histoire de l'hôpital, c'est plus de 1000 ans d'histoire. Du Moyen-Âge à la Révolution, les hôpitaux étaient des œuvres caritatives. De la Révolution à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'hôpital est passé sous la coupe des communes. Et c'est à partir de ce moment-là, du reste, que les maires sont devenus présidents des conseils d'administration, etc. Et puis, à partir de 1945, et toujours, l'hôpital, c'est une affaire d'État. Et ce qui est très, très important, ce sont les ordonnances de 1945, issues des réflexions du Conseil national de la Résistance, qui ont fait de l'hôpital le pivot de l'organisation sanitaire de la France, du pays. Et l'hôpital s'est ouvert, effectivement, comme le rappelait tout à l'heure M. Simat, l'hôpital s'est ouvert à tous les citoyens de la République, pas seulement les indigents. Quand on prend un dictionnaire Larousse, antérieur à 1945, et qu'on recherche la définition de l'hôpital, on voit refuge des indigents. Depuis 1945, c'est plus le cas. Il y a une conjonction des astres qui a été absolument formidable, parce qu'en plus, la médecine a fait des progrès absolument considérables. Les médicaments nouveaux sont arrivés, il y a eu l'imagerie, la biologie, etc. Les médecins se sont mis à guérir les malades. Donc ça, c'était un progrès absolument formidable, quoi. Et puis, il y a eu de grandes lois qui ont été évoquées. La loi de 1958 qui a créé les CHU, c'est-à-dire le mariage entre les centres hospitaliers régionaux et les facultés et l'université. Et cette réforme Debré de 1958 est à toujours cours. Et elle est à l'origine de l'excellence, je n'hésite pas à dire le mot, de la médecine française, qu'on n'exporte pas assez dans le monde, parce qu'on ne doit pas être très très bon en matière d'exportation, mais c'est véritablement un modèle. Et puis, il y a eu la loi sur le plein temps hospitalier. Et là, pour ces deux...
C'est le milieu des années 60, hein, c'est ça.
C'est 62, quelque chose comme ça. Et ces deux réformes-là, pour faire ces deux réformes, il fallait un gouvernement très fort. Parce que ces réformes se sont faites contre les lobbies de l'époque, les lobbies médicaux. Ça s'est fait contre les syndicats médicaux et contre l'ordre des médecins qui voyaient une fonctionnarisation de la médecine. Donc il fallait un gouvernement fort pour l'imposer. C'était De Gaulle qui était le président de la République et le Premier ministre, c'était Michel Debré. Et le père de la réforme, donc c'est Robert Debré qui a pu la faire passer. Mais ça a été à l'origine de l'essor de l'hôpital. C'était absolument formidable. Alors Poitiers s'est inscrit dans ce processus, bien sûr. Poitiers a vu arriver de jeunes agrégés. Ça a été une chance absolument extraordinaire. Et puis des directeurs généraux qui ont pris le pouvoir aussi dans les CHU, dont Georges Alix, qui fut mon maître. C'est lui qui... C'est lui qui m'a formé. Moi, j'ai commencé à apprendre...
Il m'a formé des directeurs.
Ma fonction de directeur d'hôpital, parce que ce n'est pas un métier, c'est une fonction sous sa coupe. Donc, et qui voulait investir. Il voulait moderniser l'hôpital. Quoi. Voilà. Et c'était une priorité absolument absolue. Il fallait que l'intendance suive. Donc moi, je m'occupais des finances, mais j'avais vraiment intérêt à faire en sorte que l'intendance suive. Quoi. Mais c'était... On pouvait le faire... Parce que la chance, troisième chance ou quatrième, je ne sais plus où j'en suis, c'est on avait de l'argent. C'était absolument incroyable. L'hôpital était financé par le biais des prix de journée. On avait les masses d'honoraires également qui découlaient directement de la production médicale. Et on a pu lancer des investissements considérables. Donc moi, quand je suis arrivé à l'Hôtel Dieu en 72... L'Hôtel Dieu, c'était absolument pas un mouroir. L'Hôtel Dieu, on a dépensé beaucoup d'argent dans l'Hôtel Dieu, alors qu'on savait pertinemment qu'on allait le laisser au bout de quelques années. Georges Alix avec Raymond Gattard voulait absolument investir, et à juste titre, le secteur de la minetterie, parce qu'il savait bien qu'on ne pouvait pas rester à l'Hôtel Dieu. C'était trop étriqué. La faculté de médecine était trop petite également. Donc il y avait ce grand terrain qui était de la ferme, de la minuterie, qui était libre, et on allait investir là. Donc on a modernisé l'Hôtel-Dieu, et tout en modernisant l'Hôtel-Dieu, on a dépensé beaucoup d'argent. Eh bien, on a lancé également tout le projet de la minuterie. Et on a fait en une seule tranche l'hôpital Jean-Bernard, 900 lits à peu près, l'internat, la blanchisserie, et puis le pavillon d'administration également. C'est inconcevable. Financer 40% de subventions, 30% de prêts sans intérêt de l'assurance maladie, et on empruntait le solde de 30% auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et on remboursait en monnaie de singe grâce à l'inflation. Donc vraiment, c'était une période faste.
Je pense que voilà. vous venez de prononcer un des mots-clés. Effectivement, l'inflation à cette époque a sans doute permis de réaliser beaucoup, beaucoup de choses. Merci pour ce résumé historique qui, effectivement, a le mérite de resituer les choses dans leur cadre et d'éclairer les propos de Madame Sudre concernant cette écoute que vous trouviez, vous les soignants, auprès de l'administration de l'hôpital et qui vous permettait d'évoluer. On a la chance d'accueillir, il n'était pas là au début, sinon je lui aurais passé la parole aussi, Monsieur Guionnet, qui peut sans doute témoigner de cet état d'esprit, cette ambiance qui régnait dans les années 50. Monsieur Guionnet.
Voilà, bonsoir messieurs, dames, mesdames et messieurs. Je suis très heureux d'être parmi vous. Je suis un millier témoin d'un autre âge. J'ai fait mes 9 années d'études médicales à l'Hôtel Dieu, sauf à l'extrême fin où j'ai partagé mon temps pour un tiers à la milletterie, en psychiatrie et en cardiologie. Donc je suis très heureux d'avoir apporté mon grain de sel au livre que nous fêtons ce soir. Je vais parler en égoïste. Ce travail de recherche et de mémoire m'a permis de retrouver un peu de ma jeunesse étudiante. Et le gros problème de cette recherche, c'est qu'une fois qu'on a les idées, on en trouve d'autres. Et on trouve plein d'idées une fois que le bouquin est paru. Donc on attend peut-être une deuxième ou une troisième édition. Ce sera une bonne chose. Donc j'arrivais en 1962 à l'Hôtel Dieu, le premier jour, comme je le raconte dans mon livre, le premier jour, nous étions tout de suite en contact avec les malades. J'arrivais à la salle Guignard avec le docteur Jean Beauchamp, et tout de suite, ceux qui liront mon livre verront mes péripéties de ma première intervention. C'était une cirrhose du foie. J'ai eu l'impression très nette de mettre une barrique de cidre en perse. Très gêné, un peu gauche, comme on dit tout étudiant. C'était le lundi matin de la première année. La bonne sœur était là. La sœur s'en est très bien tirée. Ça s'en est beaucoup mieux tiré que moi. Et je leur tire là un remerciement pour toutes les études que j'ai faites. Je les ai faites avec des anges gardiens. La seule friction était que lorsque les malades souffraient beaucoup, les sœurs cachaient jalousement la clé sous leur jupon, la clé du placard au toxique sous leur jupon. Et comme il est très difficile de fouiller le jupon d'une bonne sœur, les malades continuaient à souffrir. Ça a été une de mes grosses déceptions. Donc ma jeunesse s'est passée là, et je voudrais ce soir...
T'as dit 1962, je pense que c'est 1953.
53, oui. Oui, 53, exact. C'est exact, oui, les années se mélangent un peu. Le terreau des souvenirs est un peu épais, les années sont passées. Je voudrais justement élaguer un petit peu ça. Je suis pas encore tombé en enfance, mais là, je vais essayer de retrouver ma jeunesse. L'enfance, ce sera pour plus tard. Je peux vous profiter de cette séance pour donner un vibrant hommage à tous ceux que j'ai connus, aux patrons qui étaient bien souvent à temps partiel, mais qui se donnaient énormément à l'hôpital. Ils étaient levés de bonne heure, quelquefois partis de bonne heure d'ailleurs. Mais enfin, ils nous ont appris à travailler, appris la vraie médecine, la médecine qui n'était pas celle que nous connaissons maintenant, qui était une médecine qui guérissait, comme disait tout à l'heure un orateur. C'est une médecine qui soignait et qui arrivait à guérir, mais qui surtout soignait. Donc les patrons, mes patrons, oui, il n'y en a plus beaucoup de vivants. Je crois qu'il doit subsister Monsieur Alain de Boissière. Je ne sais pas s'il est là. C'est le seul que je connaisse encore vivant et tout à fait respectable. Je lui présente mes hommages s'il est là. Les patrons, les sœurs, j'en ai parlé. Et mes camarades d'internat, nous étions 25 internes et nous faisions tourner l'hôpital à 25. C'était un hôpital qui était surchargé et nous arrivions à tout faire. Nous avions notre service, toutes les gardes de tout l'hôpital, tous les 10 jours, sauf la maternité qui faisait un petit peu bande à part. Et j'ai un très grand souvenir, une très grande amitié pour tous mes camarades d'internat. Et particulièrement, je voudrais ce soir célébrer la mémoire de Camille Naudin. C'était un garçon dont l'humour égalait la puissance de travail, la gentillesse et le bon sens. Et Camille s'est fait tuer bêtement en son service militaire en Algérie. Et l'ancien internat qu'il avait tant de fois animé et tenu haut la main s'est appelé à un moment hôpital Camille Naudin. Après, quand le nouvel internat est arrivé, tout est tombé en désuétude. Mais je voudrais ce soir saluer sa mémoire. C'est un garçon, j'ai retrouvé des photos il n'y a pas longtemps. Il mérite notre compassion et notre respect. Il aurait fait un excellent médecin.
Gérard, 25 internes pour faire tourner l'hôpital. Combien de lits à l'époque, dans les années 50
Le docteur Beauchamp aussi, oui, c'est lui qui dominait. Pour raconter un petit peu l'ambiance, la manière dont nous travaillons, le docteur Beauchamp arrive un matin, le chapeau prêt à tomber en arrière. Ceux qui liront le bouquin comprendront tout de suite. Donc c'était un jour faste. Venez, 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 j'ai quelque chose d'extraordinaire à vous montrer. Il s'agissait d'un amplificateur de brillance pour voir mieux les voies digestives. Le docteur Jean Beauchamp était gastro-entérologue. Et moi, myope et curieux, j'étais au premier rang, il dit « Guillonnet, avalez ça ». C'était un espèce de yaourt sucré, pas trop mauvais. « Couchez-vous là, et voilà l'ampli de brillance en marque, voilà douché de rayons ». Bon, je ne sentais rien, j'étais tout un peu pas gêné du tout. Et puis je vois ses yeux qui s'arrondissent. Il dit, mais mon vieux, vous avez un ulcère du bulbe duodénal. Et c'était vrai. Et il m'a pris au hasard, et puis, je suis sorti de la séance avec une belle ordonnance. Et je suis toujours vivant, que tous ceux qui ont un ulcère duodénal se rassurent, on vit très bien et assez vieux avec cette pathologie. Vous voyez un peu la manière expérimentale et un peu empirique, mais malgré tout très efficace, et l'enthousiasme qui était communicatif de nos patrons.
Puisque l'on parle de technologie, y a-t-il des radiologues dans la salle? Non? Oui? Comment ça
les radiologues,
se...
j'ai connu la famille du Cellier.
Comment ça se... Dans les années 60, peut-être. Parce que Daniel Moineur nous a parlé, et Madame Sud nous ont parlé de toute cette époque où, finalement, tout s'est développé, tout s'est construit.
Moi, je suis désolé, mais je suis encore trop jeune.
Eh oui, c'est bien ce qui me semble.
Parce que moi, j'ai connu, quelques transits gastro-duodénales que racontait Guillonnet. Mais en fait, très rapidement, la radiologie, moi, je l'ai faite dans les années 80. Le scanner apparaissait. Et surtout, les techniques d'exploration par voie directe, endoscopique, étaient arrivées. Et les gastro-entérologues ne faisaient plus d'ampli de brillance, mais ils mettaient des tubes dans les estomacs et ça leur permettait. Mmh. Voilà.
C'était l'époque héroïque.
Oui.
Voilà.
Alors, pour rebondir sur ce que disait Madame Sudre tout à l'heure, quand même, l'usage unique est arrivé très tard. Même quand on était dans la tour, on faisait encore beaucoup de poupinelles et les sondes, nous on fabriquait nos sondes pour monter dans les artères des gens. On utilisait les mêmes sondes 3-4 fois. On les mettait dans un produit qui leur permettait de stériliser, c'est ça. Et puis il a fallu attendre qu'il y ait finalement les problèmes de la vache folle, de tout. Si, ça a été assez tard. Et là, on a eu interdiction. Vous vous souvenez, monsieur... Oui. Par exemple, les dilatations des vaisseaux qu'on faisait avec des ballonnets, les ballonnets coûtaient très cher, il fallait qu'on l'utilise au moins 3 fois pour que ce soit rentable, parce que autrement, le directeur des finances nous faisait les gros yeux.
Bien, je crois que monsieur Ariès souhaite reprendre la parole.
Oui, Jacques Druneau est un peu jeune. Je pense que le matériel stérile, il y a du matériel stérile extrêmement spécialisé, comme le sien, et le matériel stérile, disons, normal, c'est-à-dire les seringues en plastique, les aiguilles jetables, etc. Et ça, c'est arrivé quand même, on était encore à l'Hôtel Dieu. Mais par contre, effectivement, dans les services très spécialisés, comme l'artériographie, ils utilisaient encore des choses peut-être assez anciennes. Je voudrais rebondir aussi sur ce que disait Daniel Moinard tout à l'heure. C'est effectivement, il y a les décrets, on a les dates des décrets. Mais l'application de ces choses, ça a pris un bon bout de temps. Là, tout à l'heure, j'étais en train de relire le conseil d'administration, les registres du conseil d'administration de 58. Et en 58, l'ordonnateur des dépenses est toujours un administrateur. Ce n'est pas le directeur.
Oui, donc ça met du temps à se mettre en place. Alors, puisque
ça a mis 59, de 45 à 59. Vous avez calculé 14 ans.
Alors justement, 59, c'est une période intéressante, puisque c'est là que les choses commencent à se mettre en place. Je crois qu'il y a des personnes dans la salle qui ont travaillé dans les années 60 à l'Hôtel Dieu. Madame Breuil. Oui.
Voilà. Moi, je suis arrivée à l'hôpital. Moi, je suis arrivée à l'hôpital en tant qu'externe. À l'époque, c'était le premier concours d'externat. J'avais 19 ans et j'ai quitté l'hôpital il y a seulement 10 ans. Donc, je suis restée 45 ans à travailler à l'hôpital. D'abord externe, puis interne, chef de clinique, assistante et puis attachée.
Vous arrivez en quelle année, excusez-moi ?
Je suis arrivée en... Alors, attendez que je réfléchisse. 59... En 59, j'étais ce qu'on appelait PCB. Donc en 60, j'étais en première année de médecine. La première séance a été houleuse puisque j'étais dans le service du monsieur Guillaume Vallée. Je n'avais jamais vu d'homme de ma vie. Et on a commencé tout de suite par faire un examen endoscopique des organes vésicaux et génitaux du bonhomme. Il m'a précipité entre les jambes écartées. C'est un souvenir horrible. Et cirrhose aussi, c'était épouvantable, comme disait Bernard. Bon, je me suis même demandé si j'allais continuer. Bon, j'ai bien continué. Et je me souviens particulièrement du service de pédiatrie qui était dans un pavillon d'époque Henri IV avec un magnifique escalier en bois tourné. Et il y avait tellement d'enfants qu'on les mettait dans des tiroirs, dans des corbeilles à linge. Et un beau jour est apparue la nécessité de se laver les mains entre deux examens d'enfants. Ça a été très, très, très dur à adopter parce qu'on perdait son temps à se laver les mains. Ça prenait du temps. Enfin, le professeur Ferru a insisté et nous avons eu un lavabo par pièce. Par contre, dans le service de pneumologie, où il y avait une quantité énorme de tuberculeux, on appelait ça le SANA, ils avaient le droit tous les matins à une perfusion avec un médicament particulier qui est passé dans un tuyau en caoutchouc. Madame Sud, on lavait les tuyaux en caoutchouc dans le service de pneumologie. On aiguisait les aiguilles, mais même nous, les externes, on faisait ce genre de pitrerie. Mais c'est vrai, il n'y avait pas de problème. Ils supportaient bien ça. Alors, j'ai pu voir l'évolution de la radiologie aussi en pneumologie. J'ai pratiqué beaucoup de scopies. Avant de ponctionner les gens, on faisait une scopie. Au début, on ne voyait rien du tout. Heureusement qu'on avait des oreilles quand même pour localiser les penchements. Et puis, petit à petit, toutes ces améliorations spectaculaires qui ont fait que c'est un métier extraordinaire. Et
j'ai pu voir comme ça l'évolution formidable de l'hôpital de Poitiers.
Externat, internat, dans les années 60, vous êtes. Vous
oui,
êtes,
j'ai.
Vous, passé... étiez, vous étiez nombreuses, les femmes
Combien en étaient Il y avait les... 30 femmes
Non.
Trop de femmes ah, oui, d'internes, mais combien il y avait Liliane Marie-Cécile Desmarais, oui. Marie-Jo. Il y avait moi. Oui, Laurette Subreville, moi-même. Oh non, on était cinq femmes.
Oui.
Ah, et puis je voudrais aussi
remercier
le service de porte, parce qu'à l'époque, quand on était interne ou externe, recevoir les gens en pleine nuit, le service était dirigé d'une main de fer par Sœur Françoise, qui avait des lunettes comme des culs de bouteille, et l'aide-soignante, elle s'appelait aussi Marguerite Breuil, et quand c'était moi, c'était Breuil aussi, donc c'était le pilier de l'accueil. C'était assez folklorique, hein, faut dire.
Retour dans les années 60. Un autre témoignage, peut-être ?
Ah, le bruit de la porte qui s'ouvrait la nuit à 2h du matin, les pompiers qui arrivaient, c'était extraordinaire.
Il est au fond, je le vois pas.
Le bruit de la porte, donc.
Un témoignage ici, puis ensuite dans le fond.
Bon, on parlait tout à l'heure de la...
Oui, non, je voulais seulement dire que j'avais un petit peu d'avance par rapport à Mme Breuil. Je suis arrivé en 56, en première année de médecine. Donc, pas très loin, après le départ du docteur Farisi. En 56, il est parti, si j'ai bien compris, en 48.
51,
alors vous voyez, ça fait peu de choses. Ouais. Et je suis resté dans les hôpitaux jusqu'en 1996-97. Et je suis resté toujours entre l'Hôtel-Dieu et la Milletterie en neurologie, donc, puisque le service de neurologie est monté dans les années début 60, 63, je crois, à la Milletterie. Et j'ai connu toute cette période, puisque j'étais là sauf 2 ans, où je suis parti à Nantes, puisqu'à l'époque, la 4e et la 5e année ne se faisaient pas à Poitiers, qui était école de médecine.
On va parler de la faculté de médecine, puisque je crois que... Monsieur Montoula, mais d'abord, il y a Albert Mariot qui souhaiterait s'exprimer. Monsieur Mariot.
Oui, tout à l'heure, on parlait de la radiologie.
Oui.
C'était le docteur Fontaine, qui exerçait en ville, qui avait un cabinet, je crois, pas très loin d'ici, qui venait à l'hôpital pour refaire la radiologie, tout au moins interpréter les radios qui avaient été faites par les techniciens de l'époque. Et il y a eu ensuite le docteur Dusselier.
On vous entend mal. Si on peut avoir un peu de son, le micro du fond.
Je ne sais pas, il faut peut-être que je parle plus près.
Voilà,
si ça
voilà. Merci.
Oui, alors ensuite, c'est le docteur Dusselier. Mais alors la pratique qu'il y avait aussi, c'est qu'à l'époque, toutes les radios étaient... développé à la main. Il fallait commencer à mettre la radio d'abord dans le révélateur, ensuite dans l'hyposulfite, et puis les laver. Ça prenait un temps fou, et fallait-il encore ne pas mélanger les radios d'un malade avec un autre. Alors on mettait bien sûr, avant l'exposition aux rayons X, un petit, un dispositif qui indiquait le nom du malade, mais des erreurs étaient possibles. Je me souviens un jour où on m'avait montré une radio d'un jeune homme qui présentait des douleurs dorsales. Et en fait, on m'a donné une autre radio. J'étais effrayé parce qu'il avait des becs de perroquet abominables. Évidemment que ce n'est pas 20 ans qu'on en a. Et puis, surtout, il y avait énormément de radioscopies. Et les scopies, il fallait être dans le noir pendant un certain temps pour pouvoir les voir correctement. C'était une pratique très, très utilisée à cette époque. Et évidemment, les médecins qui, à longueur de journée, étaient derrière... l'écran fluorescent qui faisait apparaître l'image révélée par les rayons X, eh bien, ils avaient souvent des pathologies graves parce que ce n'est que très tardivement qu'on s'est rendu compte qu'il fallait limiter les expositions aux rayons X. On le savait, mais on ne se rendait pas compte.
Et oui.
Ça, c'était donc le problème de la radiologie à l'époque qui, très rapidement, s'est transformé avec l'arrivée du professeur Gasquet, qui a incité l'administration de l'époque à acheter des matériels plus performants. Puis ce n'est que beaucoup plus tard que d'autres techniques plus développées d'image médicale sont arrivées. Mais quand on parle de l'époque historique, c'était vraiment, c'était ça la radiologie. On faisait une radio qu'on développait et puis on la regardait sur les négatoscopes, ce qui est encore le cas dans de nombreux cas, mais enfin, c'est pas le même, pas du tout la même technologie. Ça, c'était donc ce problème pour les radios. Tout à l'heure, je vais passer du coq à l'âne. On parlait des étudiants en médecine quand ils rappliquaient. Je suis arrivé à peu près à la même époque que Mme Breuil, peut-être un petit peu après, je ne sais pas, un ou deux ans près. Et ce qu'il y avait à l'époque, c'est qu'on vous envoyait dans les services. Et je tiens à redire ce qu'avait dit tout à l'heure Guillonnet, c'est que certains maîtres étaient vraiment omniprésents sur le plan du contact avec les étudiants. Et il y avait un sens de la pédagogie, je pense au docteur Guillaume Vallée notamment, qui était là pour tout vous expliquer. Et on évoquait tout à l'heure les examens des malades qu'on voyait. Et il faut voir les instruments qu'il y avait. Je pense à la technique, il y avait des rétrécissements de l'urètre qui étaient traités en enfonçant un béniquet horrible dans l'organe sexuel, et puis c'était horrible à voir faire, et puis pour les malades, ils en souffraient beaucoup, mais on ne prenait pas de précautions particulières. Il fallait peut-être avoir des boules caisses dans certains cas, mais enfin, c'était tout. C'était horrible.
Donc, ça, c'est les années 60, ce sont des souvenirs qui remontent aux années 60.
Je revenais en arrière. Et à ce moment-là, on nous envoyait apprendre à faire les piqûres. Et alors, évidemment, on pourrait plus penser que dans une pédagogie bien soutenue, on nous aurait accompagnés pour nous montrer comment il fallait faire. On a improvisé. Et je me souviens, on descendait à Dahlem, où il y avait des salles où il y avait peut-être 30 ou 40 malades, et on nous donnait des trucs, des produits à injecter. On ne savait même pas ce que c'était. Et puis, ma foi, je n'ai pas oublié, parce que quand on est depuis 8 jours, on fait ces études de médecine, qu'on commence et qu'on fait les premières piqûres, j'arrivais à faire une piqûre quand même. Mais c'est le lendemain, quand j'ai refait la piqûre, une autre piqûre à la même malade, qui m'a dit « Oh, docteur, vous m'avez fait beaucoup moins mal aujourd'hui qu'hier. » J'étais certes très fier de me faire appeler docteur au bout de 2 jours d'études de médecine, mais enfin, c'était un détail que je n'ai pas oublié.
Vous nous avez parlé de Dahlem.
Oui,
c'est Dahlem, intéressant, c'est... parce que Dahlem, c'est un nom qui vient très souvent dans l'histoire de l'Hôtel Dieu. Il y a d'autres noms qui reviennent souvent.
Dahlem, c'était le nom qu'on donnait aux bâtiments qui ont été ensuite attribués, enfin, qui sont juste derrière, entre la rue du Guillaume le Troubadour et ce qu'on appelait le Sana.
Oui. Et le petit château, c'était quoi ?
La morgue. C'était une horreur. Ça, alors là, c'était une espèce de salle qui était, comment dirais-je, qui est démolie maintenant. Et qui était située juste à côté de la pédiatrie.
Oui.
Et alors, c'était une... On y rentrait ou on n'y rentrait pas, mais quand on rentrait, c'était lugubre. Il n'y avait même pas de fenêtre. Il fallait ouvrir la porte pour faire des autopsies. Je n'ai jamais franchi cette porte qui me dégoûtait profondément. Mais enfin, je n'étais pas forcé d'y aller, alors.
Enfin, ça marquait visiblement pas mal de monde. Alors, une autre histoire de géographie. On parle à un moment du tunnel Saint-Gathard.
Qui pourrait nous
parler du tunnel Saint-Gathard ? Je crois que ça a été... Il y a toute une histoire autour de ce tunnel-là.
C'est-à-dire que M. Gattard, à une époque, a fait creuser un tunnel sous une des ailes qui permettait de rejoindre l'ascenseur de l'aile gauche de l'hôpital quand on est dans le jardin, et qui permettait, donc quand il a été construit, de pouvoir amener les malades en ambulance à partir de l'entrée de la rue de Guillaume le Troubadour. Mais alors, ça a été creusé dans les fondations de cette aile, ça a fait un bruit pendant 15 jours, 3 semaines, horrible, avec les marteaux-piqueurs, et il y avait les malades qui étaient juste au-dessus. Je pense que ça devait être très inconfortable dans leur lit d'entendre ce bruit du marteau-piqueur. Ça, alors là, je... Et puis, charitablement, ma foi, on lui avait donné un nom, et comme c'était M. Gattard qui l'avait... je dirais poussé pour le faire creuser, eh bien, on l'avait charitablement appelé le tunnel de Saint-Gathard. Et je crois que c'était le docteur Gasquet qui avait trouvé cette dénomination.
Ça veut dire que ça vous avait rendu service quand même.
Ah oui.
Jusqu'à béatifier M. Gattard.
Mais, monsieur Gattard, je voudrais en parler parce que c'était quand même une personnalité étonnante.
Oui.
Il avait été, quand il était jeune, eu le mal de pote et il avait été à Berck pendant un certain temps et il avait énormément souffert de cette maladie qui, à cette époque-là, on traitait comme on pouvait et on ne devait pas faire beaucoup d'efforts avec les antalgiques. Et il s'en était souvenu toute sa vie, à un tel point qu'il avait pour religion que les patients puissent aller d'une partie de l'hôpital à l'autre sans être descendu leur civière. Et il a insisté lourdement, et je me souviens qu'il le disait que c'était lui qui était à l'origine, pour que les portes d'entrée des chambres et des couloirs soient suffisamment larges dans la tour, parce qu'il voulait qu'on ne soit pas comme on faisait avant, qu'on descende le malade de sa civière, qu'on le transporte dans son lit comme on pouvait, parce que c'était souvent trop douloureux.
Alors il y a quelqu'un qui peut témoigner de ça ici, parce oui. qu'il a travaillé justement avec M. Gattard et il a réfléchi à ces questions-là. C'est le créateur du service de rééducation, c'est Jean-Pierre Catlineau, oui. qui va pouvoir témoigner.
Deux incidents, deux anecdotes au sujet de Dalem. Je me souviens, nous avions à ce moment-là, il y avait le bizutage des premières années, et nous avions donné comme bizutage de prendre toutes les tensions du 20e. Les pensionnaires du 20e étaient contents, la sœur aussi, mais le candidat médecin, beaucoup moins. Deuxième anecdote sur Dalem, j'ai soigné là-bas la nièce du maréchal Pétain, qui s'appelait Mademoiselle Pétain. Avec Demio, nous allions tous les matins lui parler. Elle était charmante. Elle avait les yeux bleus de son oncle. Elle m'avait donné tous les documents qui étaient du maréchal, qui étaient dans sa table de nuit, en disant « C'est pour vous, vous prenez tout quand je mourrai ». Je viens un matin, le lit était vide. Oui, Mademoiselle Pétain. Mademoiselle Pétain est décédée cette nuit et la sœur a tout fait brûler.
Jean-Pierre Catlineau, Jean-Pierre Catlineau sur la création du service de rééducation et sur les préoccupations, les débats que vous avez eus avec M. Gattard.
Oui, j'ai eu un petit problème à l'hôpital à cette époque-là. Moi, je suis rentré à l'hôpital en 66 et j'en suis sorti en 73. J'ai donc vu l'évolution de cet hôpital, je dirais, à grande vitesse, puisque... Il y a eu des services qui se sont ouverts. En plus, il y a eu des doublements de services, en particulier en orthopédie. Et un jour, donc, monsieur le directeur Gattard m'a demandé de venir dans son bureau et pour me demander si je voulais bien l'aider à construire le service de kinésithérapie dans le pavillon que j'appelais, moi, le SANA à cette époque-là. Et nous sommes donc descendus dans les sous-sols pour voir comment nous allions pouvoir faire trouver une surface. C'était des lits, c'était des choses qui se traînaient dans un sous-sol, c'était effroyable. Mais on a trouvé, je dirais, une grande surface. Si tout avait été déblayé, ça aurait été une belle salle de kinésithérapie. Ce qui s'est passé, c'est-à-dire quelques jours et quelques mois après, on a réussi à construire cette salle de kinésithérapie. Le seul défaut, et là on en revient au problème des portes de M. Gattard, le seul défaut c'est que moi, en tant que kinésithérapeute, et avec le service d'orthopédie, comme à l'époque, les interventions au niveau des hanches se faisaient, c'était, si vous voulez, les premières grandes interventions au niveau des hanches, je pensais que, et puis les médecins aussi, M. Frélon et M. Clarac, n'étaient pas très chauds à ce qu'on bouge les malades d'une façon ou les déplacer. Donc, on avait donc décidé... avec M. Gattard, que ce serait plus confortable pour le malade de le descendre dans son lit, mais au sous-sol. Et le problème, c'est que les ascenseurs du SANA n'étaient pas assez larges. Si vous voulez, ils n'étaient pas assez larges et assez profonds. Il a fallu qu'on construise donc une nouvelle cheminée à la place des anciens ascenseurs. et nous avons pu descendre ces lits dans ce service. Et comme ça, les patients venaient directement de leur lit. Voilà, venaient directement de leur lit.
Et ça, c'est la naissance du service de kiné.
C'est tout à fait la naissance d'un premier service de kiné. Il y en avait, c'est ça. Il y en avait un autre qui existait avant, mais qui était à la Milletterie, dans le pavillon Le Blais, si je ne me trompe. Non, dans le suédois, pardon, dans le suédois. Voilà. Moi, mais j'étais à l'époque, si vous voulez, on était 4 kinésithérapeutes dans l'hôpital. Il y avait 2 qui étaient des non-voyants qui se trouvaient à l'Hôtel Dieu, et on était 2 autres, si vous voulez, au niveau du pavillon Le Blais. De temps en temps, on était obligé, si vous voulez, de descendre de la Milletterie. On descendait jusqu'à l'Hôtel Dieu pour faire les soins qu'il y avait. Ça dépendait des demandes. Et un jour, je me suis rendu compte que les non-voyants travaillaient, si vous voulez, travaillaient à l'acte, alors que nous étions mensualisés. Ce qui voulait dire que les non-voyants, quand ils travaillaient, si vous voulez, il fallait qu'ils soient accompagnés au service, et ils faisaient, si vous voulez, peu de malades. Et je trouvais injuste que nous, qui étions mensualisés, mes confrères ne touchent pas les mêmes choses que moi sur le plan financier. C'est là où j'ai eu des mots avec M. Gattard. C'est-à-dire que M. Gattard, un jour, j'avais été le voir en lui disant « Je trouve que c'est injuste. Il faut que mes confrères soient payés au même titre que nous. Il faut les mensualiser. » M. Gattard m'a répondu « C'est pas possible. Ils ont un contrat, etc. » Et là, j'ai demandé à mes confrères ce qu'ils en pensaient. Tout le monde a été d'accord. Et nous avons organisé, si vous voulez, une grève qui a duré 8 jours, pas tout à fait 8 jours, mais presque. Nous avons refusé de faire les soins, sauf les grandes urgences, en particulier les respiratoires pour les bébés. Hormis ceci, on avait donc refusé. Et M. Gattard, quand il m'a vu arriver dans son bureau, le jour où j'ai lui ai dit que nous allions être en grève, m'a dit, en ouvrant la porte de son bureau, « Alors, Catelineau, qu'est-ce que j'ai en face de moi? Le fils d'un ami ou un kinésithérapeute rébarbatif ?» Ben, je lui dis, « Vous avez les deux, monsieur le directeur. » Et bon, dans le temps, après, ça s'est très bien arrangé. Nous avons réussi ce que nous voulions. Comme ça, c'était un peu plus juste pour tout le monde. Voilà.
Ça veut dire qu'à peine créé, le service kiné était en grève.
Je suis sûr que monsieur Gattard criait plus fort que ça. Qu'est-ce qui gueulait, l'animal?
Oui, c'est vrai, monsieur. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, monsieur.
Alors, on vient de parler de la grève.
Vous voulez encore une histoire?
On va peut-être passer à d'autres. Tout à l'heure, les histoires. Tout à l'heure, les histoires. Après, les histoires. Mais je ne doute pas qu'elles soient toutes réelles. On parle justement de la création des services et de cette formidable expansion de l'hôpital dans les années 60 qu'évoquait Daniel Moinard. Donc l'arrivée des agrégés et ces jeunes praticiens, ces jeunes spécialistes qui sont formés et qui créent des services. Alors je crois qu'on a un certain nombre de personnes dans la salle qui peuvent en témoigner. Monsieur Clarac?
Peut-être, on vient de parler de la kiné. Est-ce que Jean-Pierre Clarac, qui a créé le service d'orthopédie, comment ça s'est passé?
Oula, c'était un peu compliqué parce qu'il a fallu qu'on aille jusque chez le monsieur Alix. Parce qu'en fait, justement, il y avait une division de la kinésithérapie. Celle de l'Hôtel Dieu était un peu dans un certain abandon et au détriment d'un centre beaucoup plus prestigieux, tout au moins en parole, qui était situé au niveau de la Milletterie. Et il a fallu que je fasse remarquer à monsieur le directeur général que certains de mes collègues notaient des kinésithérapeutes sans jamais avoir vu leur travail et que personnellement, ça ne me paraissait pas souhaitable du tout. Et je dois dire que M. Alix a mis un peu de temps, mais il a suivi mes remarques. Mais enfin, je crois que c'est un passé un peu acide sur lequel il vaut mieux peut-être passer pour dire des choses plus intéressantes, à savoir qu'on a créé l'orthopédie, enfin tout au moins mon domaine, l'orthopédie traumatologie dans une époque explosive, puisque c'était l'époque où sont apparues les prothèses, en particulier de hanches, sur le marché, mais si on peut s'exprimer ainsi. Et donc, ça a porté un coup de fouet considérable à la maison, parce que jusqu'à maintenant, les grosses pathologies, jusqu'à cette époque, c'est-à-dire les années 71, 72, la pathologie de la hanche ne suscitait que des opérations palliatives qui immobilisaient les malades longtemps. La prothèse de hanche a été quelque chose qui a fait exploser les choses. Alors j'avais même, puisque là on est à l'époque universitaire là maintenant, et donc moi j'ai été nommé au concours d'agrégation, et à ce moment-là nous avions des internes qui n'étaient plus tout à fait les mêmes que ceux dont les collègues parlaient tout à l'heure. Ce sont des gens qui étaient nommés à des concours de CHU. Et alors nous étions peu nombreux comme collègues nommés PUPH, comme on dit maintenant, ça veut dire professeur des universités, praticien hospitalier, si bien que nous étions, par rapport à nos collègues, moi venant de Bordeaux, d'autres venant de Paris, nous étions de tous les jurys, tous les ans, parce qu'il n'y avait pas le roulement nécessaire, il fallait avoir le titre de chirurgien des hôpitaux pour siéger au jury. Donc avec mon ami Barbier, mon ami Aubert, nous étions les membres constants tous les ans des membres du jury, jusqu'au jour où, épisode personnel, j'ai fait une colique néphrétique qu'on a soignée, puisqu'on siégeait dans les locaux du service de chirurgie de mon ami Barbier. La surveillante de nuit est venue me donner un antispasmodique avec lequel je suis rentré chez moi. Mais nous avons lu les copies jusqu'à la fin. Le lecteur des copies était un interne titulaire. Il avait trouvé que j'étais un peu pâle. Je m'excuse auprès de lui, mais je ne pouvais pas influencer la couleur de mon visage. Voilà. Mais en fait, tout ça s'est très bien arrangé. Et donc, l'hôpital a évolué. Vous parliez de M. Gattard. Et je crois qu'il faut qu'on rende hommage au duo, à la paire de demi, comme on dirait en rugby, Alix Gattard. Parce qu'ils étaient différents, mais M. Alix a eu la grande intelligence d'exploiter vraiment le talent de M. Gattard, qui est un monsieur qui connaissait le bâtiment et qui, du coup, s'est passionné pour la création de la tour de la Milletterie. Et tout à l'heure, nous en parlions avec des amis. Dans ma voiture, il y avait des bottes de chasse, oui, mais en l'occurrence de chantier, pour aller sur le chantier voir. Et il y a à l'heure actuelle, dans le service d'orthopédie, un service de consultation dont la distribution des bâtiments est grosso modo celle que nous avons mise en commun, M. Gattard et moi-même, pour faciliter les consultations par rapport à ce que nous faisions à l'Hôtel Dieu, où en particulier le vendredi, certains s'en souviennent peut-être, le vendredi soir, il y avait une consultation dans la partie arrondie là, de la rotonde. Ça durait jusque vers 20h30, 21h. C'était, alors on a beaucoup arrangé tout ça. Et là, je crois que donc il faut rendre un grand hommage à M. Alix et à M. Gattard. Alors, M. Gattard avait une hanche bloquée à la suite de sa pathologie. Il avait sa 504 avec un siège spécial et la tige du volant plus longue pour pouvoir se déplacer. Et nous avons beaucoup parcouru le chemin de l'Hôtel Dieu à la Milletterie pour essayer d'en faire un peu ce qu'elle est devenue. Mais je ne veux pas monopoliser la parole. Il y a beaucoup d'autres choses à dire, certainement.
Puisque vous nous parlez de M. Alix et de M. Gattard, Daniel Moinard y a fait référence. C'est vraiment dans ces années-là de gouvernance, comme on dit maintenant, 61-85, je crois, M. Alix. C'est bien cela ? 69-85, c'est ça ? Que les choses évoluent considérablement pour l'hôpital.
Oui,
et si, comme vous le disiez, Monsieur Moinard...
Si je peux ajouter un mot, les services de la Milletterie ont ouvert en 81, je crois.
Oui.
80 ? Ouais. Et mon service a été un des tout premiers. Et je me souviens avoir opéré dans une des salles d'opération qui était vouée en principe aux urgences parce que le vrai bloc n'était pas encore ouvert. Donc 1980, voilà le chemin parcouru.
Et ce qui veut dire donc que M. Alix et M. Gattard, Daniel Moinard, vous pouvez nous le confirmer, avaient bien cette vision qu'il fallait développer l'Hôtel Dieu, développer les services à l'Hôtel Dieu, mais que l'avenir se jouait à la Milletterie.
Ce que je peux dire...
Madame Alix est là peut-être et peut...
Gattard.
Oh, très brièvement, parce que je suis
carte vermeille, mais pas suffisamment emprunt à titre personnel dans l'histoire de cet hôpital, même si j'y ai toujours vécu, y étant né, y ayant vécu en tant qu'enfant de mon père et y étant médecin désormais. Ce que je voulais dire, c'est que l'époque que moi j'ai traversée par parents interposés, c'était l'époque du don de soi. Il y avait très peu, par rapport à aujourd'hui, d'administratifs. Chacun connaissait l'autre et le patron connaissait ses employés comme l'employé savait qui était le patron. On pouvait s'adresser à lui. Il a été souligné tout à l'heure par M. le directeur général Moinard que les relations étaient simples. Et c'est vrai, Mme Sudre aussi l'a dit, elles étaient simples. Et moi, on me connaissait aussi très curieusement, alors que je n'avais rien à voir avec l'institution hospitalière. Les patrons disaient bonjour, les infirmières, les cadres. Je faisais du vélo dans l'hôpital et on me faisait des petits coucous. Les jardiniers me saluaient aussi, comme je les saluais. On les connaissait par leur nom. C'est une chose qui, évidemment, a beaucoup changé aujourd'hui, de par l'essor de la population soignée et bien sûr de la diversité et d'essor de la population médicale et soignante. Mais je crois aussi que ça tenait autrefois à ce désir de se donner complètement. Et d'ailleurs, l'idée, le fondement du logement de fonction... Je m'arrêterai sur cette petite anecdote-là. Le logement de fonction, c'était un peu le principe des bonnes sœurs qui parfois avaient leur lit dans les services. Le logement de fonction, ça voulait dire qu'on pouvait y ranger le directeur n'importe quand. Ma mère me racontait tout à l'heure qu'un jour, la morgue était fermée, étant fermée le week-end et la nuit, quelqu'un avait téléphoné à mon père, parce que son numéro était dans l'annuaire, en lui disant « Voilà, mes deux petits-enfants... viennent de se tuer dans un accident en revenant d'une soirée. J'aimerais pouvoir les rencontrer sans qu'ils ne soient trop abîmés. » Et mon père, n'ayant pas trouvé d'interlocuteur au milieu de la nuit, est allé avec ma mère, qui est infirmière, rendre présentables ces deux corps. C'est quelque chose qui est inimaginable aujourd'hui. Et c'est inimaginable. Mais c'est aussi porteur d'espoir, au sens que cela prouve combien l'administration peut, elle aussi, quand elle le veut et quand on lui donne les moyens de le faire, peut elle aussi être soignante.
Monsieur Moinard, peut-être par rapport à cette période où on développe l'Hôtel-Dieu et on construit la minetterie, ça se passe sur 15 ans?
Oui, c'est ça. Ça a été très rapide. Hein. Oui. Très, très rapide. Bon, c'est vrai que c'est dans la fonction, ça. Il faut savoir anticiper les choses. Quand on tient les rênes d'une entreprise ou d'un hôpital, etc. Bon. Et très vite, vu l'essor que l'Hôtel-Dieu prenait, les dirigeants de l'époque, donc Georges Alix... Raymond Gattard ont bien eu conscience du fait qu'on ne pouvait pas rester dans l'Hôtel-Dieu, c'était beaucoup trop étriqué. Les prédécesseurs avaient eu l'intelligence aussi d'acheter la ferme de la minetterie, c'était un terrain très très vaste, pour y construire la psychiatrie d'abord, bon. Mais il restait beaucoup de surface disponible, et donc là c'était vraiment une opportunité à saisir, ce qui a été fait. Quoi. Donc le projet a été lancé et le projet de Poitiers s'inscrit également dans la démarche des autres CHU en France. Tous les CHU se sont bâtis, se sont construits pendant les 30 glorieuses, quoi, en quelque sorte, et pendant ces années 70. Il y a eu le mariage avec l'université qui était fondamental. Et je me souviens que l'obsession qu'on avait tous lorsque l'hôpital Jean-Bernard a été réalisé à la minetterie, c'était de faire venir la faculté de médecine sur le site de la minetterie.
Et ça a pris du temps. Est-ce que M. Bontou est là ?
Il est là, M. Oui. Bontou, et ça lui fait la transition.
Oui, il peut avoir des choses très intéressantes à nous dire à ce propos. Vous devenez doyen. Vous, vous devenez doyen de la fac de médecine de Poitiers.
Oui.
Au moment où finalement le déménagement de l'Hôtel Dieu est inscrit. Et comment ça se passe pour le doyen de la fac de médecine à l'époque?
Voilà, alors écoutez, une petite parenthèse, si vous voulez, je suis un très mauvais témoin pour l'Hôtel Dieu, hein, puisque je n'y ai jamais exercé. Moi, lorsque je suis venu en tant que PUPH en 1970, j'ai d'emblée eu mon service de rhumatologie dans le pavillon René Beauchamp à la Milletterie. Cela dit, depuis 1966, donc une période un petit peu antérieure à celle qu'évoquait Jean-Pierre Clarac, qui n'est venu quelques années plus tard, je faisais des cours de thérapeutique à l'école de médecine. Et M. Frélon, qui à ce moment-là faisait de la chirurgie orthopédique, me faisait appel pour voir certains patients à l'Hôtel Dieu. Et alors, je regrette que mon ami Jacques Barbier ne soit pas là, parce que, vraiment, l'exercice de la chirurgie à l'Hôtel Dieu, avant que le service soit transféré au pavillon Canol, ça se passait dans la partie haute de l'Hôtel Dieu, et c'était vraiment homérique. Lorsque Jacques Barbier faisait une chirurgie un peu lourde, un carrefour aortique ou quelque chose de ce genre, il était obligé de faire désinfecter tous les locaux. Or, il y avait une partie des locaux du bloc opératoire que l'on devait traverser pour aller dans le service de chirurgie, si bien qu'à la veille des interventions les plus lourdes, on devait fermer cette partie, et pour accéder au reste du service de chirurgie en venant de la cour de l'Hôtel Dieu, il fallait traverser le bureau du directeur. Une petite parenthèse. Le bureau du directeur était une chose merveilleuse à l'Hôtel Dieu, d'une part par sa dimension. Le bureau de M. Moinard à la Milletterie, par rapport au bureau de M. Alix à l'Hôtel Dieu, c'était un boudoir au regard d'un salon d'apparat. Hein, bon, oui. Et le mobilier, n'en parlons pas, c'était magnifique, avec des meubles récupérés, des donations. C'était vraiment une très, très belle chose. Bon, alors j'en reviens à la faculté. Donc, moi, lorsque j'ai connu cette faculté, cette école de médecine, elle était située dans les anciens locaux, ce qu'on peut encore voir rue de l'Hôtel Dieu, d'ailleurs. Une assez belle façade avec Galien et Hippocrate au-dessus de la porte. Bon, très bien, mais enfin, c'était très petit. Ça avait été construit sous le Second Empire pour faire face aux besoins d'une école de médecine qui avait probablement, à l'époque, quelques dizaines d'étudiants. Donc, manifestement, ça ne suffisait plus à l'époque où nous avons commencé, à l'époque que j'ai connue. Et c'est là, donc, qu'il y a eu, je ne sais pas exactement quand, Monsieur Moinard le sait peut-être, je ne sais pas quand, la décision de construire une nouvelle faculté et de l'implanter où elle a été implantée à l'époque a été prise. Mais enfin, manifestement, il y a eu une erreur assez consternante à cette époque. Parce que, comme le disait Monsieur Moinard, la décision était prise d'étendre l'hôpital vers le site de la Milletterie et finalement de tout concentrer ultérieurement sur la Milletterie où il y avait de la place. Or, la décision a été prise par les autorités universitaires d'implanter la nouvelle faculté à côté de l'Hôtel Dieu. Hein, bon, c'est-à-dire à une distance tout de même de 4 km de la Milletterie. Hein. Donc, nous avons été pendant des années dans ce nouveau bâtiment. C'est l'époque où j'ai été doyen. C'était le plus laid bâtiment de Poitiers, qui malheureusement est toujours en place. Je ne sais pas à quoi il sert maintenant. Et il a fallu attendre donc effectivement 2006 pour avoir la nouvelle faculté à côté de la Milletterie.
Donc vous aviez les cours rue du Jardin des Plantes, enfin côté pénétrante, et tout voilà. Le reste se passait à la Milletterie déjà. Enfin l'essentiel. On aurait pu parler de beaucoup, beaucoup de choses. Vous exprimer, M. Moinard, en rebond de ce que disait Daniel Bontou?
Oui, je peux ajouter un mot, parce que ça fait un petit moment, effectivement, qu'on les autorités étaient d'accord pour que cette faculté de médecine s'implante sur le terrain de la Milletterie, à proximité immédiate de la tour Jean-Bernard. Mais ce qui compte dans la vie de tous les jours, c'est quand la décision est effective, c'est-à-dire quand on a trouvé l'argent. Voilà. Et la décision a été prise de l'inscrire, ce projet, dans le contrat de plan État-Région. Je m'en souviens très très bien, c'était le dernier repas que j'ai fait, il faut croire en la vertu du pain rompu, le dernier repas que j'ai fait à la Milletrie, la veille de mon départ pour Toulouse. C'était en 98.
Oui, c'est-à-dire que la belle époque dont vous nous avez parlé tout à l'heure, où on avait des projets, on avait l'argent pour le faire, les 30 Glorieuses étaient bien révolues. Voilà. Et que la fac de médecine en fait les frais. Monsieur Ariès veut s'exprimer sur ce sujet en bon ?
Tout à fait, oui. Alors, en fait, l'idée d'aller faire la fac à la Milletrie, elle est dans les années 50, déjà. Enfin, faire la fac. C'est pas faire la fac à ce moment-là, c'est une école préparatoire, c'est-à-dire qui fait que les trois premières années. Et l'ambition de Debelu et de l'avenue, c'est d'en faire une école de plein exercice. On ne parle pas encore de CHU. Et l'idée, elle est, comme dans pas mal de villes, hein, c'est de garder une partie de l'hôpital en ville et une autre partie, bien sûr, qui irait à la Milletrie. Et donc, la partie qui resterait en ville serait la partie, entre guillemets, avec les malades d'enseignement. C'est leur idée au départ. La deuxième chose, et je rejoins Daniel Moiner, c'est le problème de l'argent. Quand on est une école préparatoire, c'est une école communale. Ce n'est pas sous le régime de l'université. C'est-à-dire que c'est la ville qui doit payer 50% des travaux. Et c'est pour ça que quand ils lancent la construction, ils la construisent à côté de l'Hôtel Dieu. Alors c'est peut-être une erreur, hein, mais personne n'avait prévu qu'il y aurait cette inflation après, à la fois sur le plan médical, enfin sur le plan hospitalier comme sur le plan universitaire. Quand on a construit la nouvelle faculté, là, bon, j'étais avec le doyen Barène quand on a présenté les plans, les projets, etc. au conseil d'administration de l'université. Dans nos rêves les plus fous, c'est-à-dire on est en 95-96, nos rêves les plus fous, c'était 600 étudiants en première année et des promotions de 100 étudiants. Et encore, l'université nous disait, mais je veux dire, à Poitiers, vous n'aurez jamais ça, 600 étudiants, c'est pas possible. Maintenant, en première année, c'est 1300 étudiants. Donc la faculté qu'on a construite, elle est trop petite.
Elle était trop petite dès l'ouverture, oui.
Elle était trop petite dès l'ouverture.
Alors, une autre prise de parole ?
Oui, Daniel Picot. J'ai été pour ma part un des témoins aussi de l'Hôtel Dieu, puisque j'ai fait mon entrée en 1965, je crois, d'abord comme externe, puis ensuite comme interne, et j'ai été le premier interne d'ailleurs dans le service d'hémodialyse du professeur Pat, qui à l'époque, service d'hémodialyse, qui recevait des patients de toute la région Poitou-Charentes, puisque il n'y avait pas d'autres centres d'hémodialyse dans la région. C'est pas tellement là-dessus que je voulais insister, mais c'est surtout sur le rôle régional qu'a ensuite connu le CHU. Puisque en 1977, à l'issue de mon clinica, je suis parti pour créer un service de néphrologie et d'hémodialyse, donc à Niort. Et à l'époque, je dois dire que le CHU de Poitiers était peu connu. C'est-à-dire que tous les patients qui nécessitaient des soins un petit peu spécialisés étaient orientés soit sur les CHU de Nantes, soit sur celui de Bordeaux. Et là, il y a eu un changement très net quand un certain nombre d'autres collègues sont venus du CHU de Poitiers et ont fait connaître les possibilités qu'offrait ce CHU. Ça m'a paru une évolution qui a été très importante. Elle a été encore amplifiée par l'avenue de Daniel Moinard qui est ici, puisque il a été aussi le directeur du centre hospitalier de Niort et a largement contribué. Enfin, c'est sous son autorité que s'est fait le nouvel hôpital de Niort. Et je crois que ça, je lui rends un grand hommage ici pour tout ce qu'il a fait dans ce domaine. Mais surtout, le rôle régional a été n'est apparu que dans les années 1900. Je les situe à peu près dans les années 1980, peut-être même 1985.
Oui. Ce qui veut dire que ce qui était écrit depuis plusieurs décennies ne s'est avéré que bien plus tard. Oui. Monsieur Clarac, vous souhaitiez vous exprimer.
Oui, je souhaitais remercier Daniel Bontou de son intervention et quand même rebondir un petit peu sur son intervention, parce qu'il a décrit un bloc opératoire de la période juste avant que je n'arrive. Mais quand je suis arrivé, par chance, quand même, nous étions dans l'ancien sanatorium et il y avait un bloc opératoire qui était quand même un peu plus digne du fonctionnement d'un CHU. Jacques Barbier avait son équipe. Alors, je parle sous l'œil de Martina Percé, qui a dirigé de main de maître tout le secteur anesthésique de mon propre service, et de Mlle Foin, qui est présente et qui, grande innovation à l'époque, était l'instrumentiste. Car jusqu'à l'époque, on travaillait peu avec des instrumentistes. Or, dans la chirurgie orthopédique assez précise, le rôle de l'instrumentiste, et ça s'est confirmé largement depuis, a d'une grandissime importance. Alors moi, j'avais fait un double coup gagnant parce que c'était le chef du bloc et en même temps, c'était la dame qui travaille avec moi. Et nous avons vécu une complicité dont beaucoup de malades apprécient les bienfaits. Mais tout ça était pour dire que notre bloc opératoire était quand même un peu plus moderne. Mais effectivement, on parlait tout à l'heure des infections nosocomiales. Malheureusement, elles existaient. Et nous avions, dans la masse de malades que nous opérions, malheureusement, quelques problèmes d'infection. Et la lutte a consisté à trier les particules dans l'air des salles d'opération. Et nous avons été parmi les premiers à installer un système qu'on appelait tente de Charnley à l'époque, pour filtrer l'air des salles d'opération et assurer une meilleure asepsie. À un congrès très important à Lyon, j'ai pu présenter une communication où le taux de nos infections était très élevé avant l'implantation de la tente de Charnley. On frisait les 3,5%, ce qui était énorme. À l'époque, on pouvait l'accepter, mais maintenant, on ne l'accepterait plus. Et grâce à la tente de Charnley, avec les scaphandres dont nous nous revêtions, la communication par micro pendant que nous opérions, c'était à l'époque complètement nouveau, nous avons abaissé ce taux de plus de moitié. Et j'ai présenté cette communication devant Sir John Charnley, chirurgien britannique de très haut renom, en personne. Et nous avons fêté cela avec le champagne, qui tue les microbes d'ailleurs au moins aussi bien que sa tante.
Bien, écoutez, je pense que l'on pourrait continuer longtemps à échanger, hein, puisque vous avez tous de beaux souvenirs et des histoires très précises à raconter. Simplement, l'heure tourne et on s'était engagé à terminer vers 20h. Il est 20h10. Ce que je propose, c'est qu'on donne le mot de la fin à Gérard, puisque tout ça, c'est quand même grâce à lui. On a parlé du transfert de l'Hôtel Dieu vers la Minetterie. Le dernier service à déménager, c'était lequel ?
Oui, bon, on n'aura pas le temps d'écouter mon ami Gandon. Mais le dernier service, contrairement à ce qu'on dit, c'est dans le livre. Hein, c'est en juin 1987. Alors que l'Hôtel Dieu avait déjà été vendu à l'université en octobre 86. Donc ça s'est fait très progressivement. Et l'histoire veut, c'est Gandon qui la raconte, donc ça doit être vrai, qu'on a dû expulser de force Marc Larec, qui avait encore son bureau tout à la fin. Mais je crois qu'il y a une partie véritable. Ce que je voudrais dire pour terminer, c'est d'abord remercier énormément tous les témoins, parce que ce livre est vivant grâce à eux, sinon ça aurait été un livre historique, comme on peut en faire sur beaucoup d'Hôtels Dieu. Et celui-ci, j'espère que Daniel Moinard l'apprécie par son côté témoignage. Et d'autre part, je pense qu'il est grand temps, je crois que tu voulais m'en parler, Alain, il est grand temps que les témoignages sur la Minetterie viennent, parce que je rappelle que le premier pavillon de la Minetterie est ouvert en février 1955, le pavillon Le Blay, ou suédois, c'est le même nom, et que donc il y a toute une histoire à raconter là, et que les témoignages, il faut les avoir maintenant, comme ceux d'Hôtels Dieu. J'ai même regretté qu'on n'ait pas fait ce livre à la sortie de l'Hôtel Dieu en 1987, parce que là, on a eu quelque chose de beaucoup plus complet, de beaucoup plus précis, mais c'est comme ça, c'est l'histoire. Et j'aimerais que pour la Minetterie, vous n'hésitiez pas à envoyer vos témoignages au service de la communication ou à moi-même, de façon, même si on ne fait pas pour l'instant un livre, si le jour on le fera, on aura ces témoignages, et c'est très important pour l'histoire du CHU de Poitiers.
En tout cas, merci Gérard, et merci à vous d'être venus nombreux, bien plus nombreux qu'on l'imaginait. Pour échanger tous ces souvenirs, et je crois que vous allez pouvoir continuer à dialoguer à l'étage, puisque le CHU, n'est-ce pas, Madame Masson, a prévu un petit cocktail à votre attention.